avait décidé de devenir un saint. Après tout, le bon Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Donc, Philippe voulait devenir saint Philippe. Mais comment ? Voilà l'affaire. Il résolut de tout mettre en œuvre pour voir son projet aboutir. Et pour commencer, notre jeune homme se tourna vers ceux que l'Église nous donne comme guide et comme modèle. Le voilà donc qui commence à parcourir une année avec les saints du Père Cormier. Et tombant sur saint François d'Assise, il se dit que la sainteté, eh bien, c'est affaire de pauvreté. Mais tournant la page, voilà que saint Vincent de Paul lui crie de se donner tout entier aux œuvres de charité. Et à la page suivante, saint Pierre d'Alcantara l'invite à l'austérité. Tant et si bien que notre garçon ne sait plus où donner de la tête, ni par quelle vertu commencer. Le cœur de Jésus, si bon, si bienveillant envers les personnes de bonne volonté, se chargea de le tirer d'incertitude. Ouvrant un appel à l'amour, le message du Sacré-Cœur à sœur Josepha Menendez, ce livre que tant de fois nous avons déjà recommandé du haut de cette chaire, voici ce que Philippe y lit. L'âme qui fait de sa vie une constante union avec la mienne me glorifie et travaille grandement au profit des âmes. Ainsi fait-elle un travail qui en soi n'a que peu de valeur, si elle le baigne dans mon sang ou l'unit à celui que je fis moi-même durant ma vie mortelle, de quel fruit ne sera-t-il pas pour les âmes ? Plus grand peut-être que si elle avait prêché au monde entier. Et cela, soit qu'elle étudie, parle ou écrive, soit qu'elle couse, balaye ou se repose. Pourvu, premièrement, que cette action soit réglée par l'obéissance ou le devoir, non par le caprice. Secondement, qu'elle soit faite en intime union avec moi, recouverte de mon sang et dans une grande pureté d'intention. Ainsi, notre Seigneur lui-même a voulu résumer la sainteté à deux choses. Tout d'abord, que nos actions soient réglées par l'obéissance ou le devoir, et non le caprice. Et deuxièmement, eh bien, qu'elles soient faites en intime union avec lui et avec une grande pureté d'intention. Alors, la première des choses est facile, faire notre devoir d'État, nous le savons bien. Voyons, si vous le voulez, davantage la deuxième chose. Et d'abord, l'union intime avec Dieu. L'union intime avec Dieu. Si nous y réfléchissions quelques instants, nous serions frappés de stupeur. Dieu, c'est-à-dire l'infini, l'éternel, le Tout-Puissant. Dieu daigne nous appeler, nous, qui ne sommes que ses créatures, et ses créatures pécheresses, qui l'avons crucifié, ne l'oublions pas, il nous appelle à une vie d'intimité avec lui-même. Comment cela est-il possible ? Eh bien, par une faveur toute gratuite de Dieu, un don de son amour que l'on appelle la grâce. C'est l'état de grâce qui fonde la vie d'union à Dieu, la vie d'intimité avec Dieu. Oui, par sa grâce, cette participation à la vie divine, Dieu vient combler la distance infinie qui nous sépare de lui. Et nous élevant au-dessus de notre condition, il vient nous établir dans l'amitié divine. Sans la grâce, nous perdons cette amitié et nous nous rangeons ipso facto avec les ennemis de Dieu, ce qui bien sûr empêche toute union avec lui. Quand on y pense bien, quel drame que le péché mortel. Ainsi élevée et ornée par la grâce, l'âme va se trouver dans les conditions requises pour l'union à Dieu. Par la grâce, en effet, Dieu est présent dans l'âme du juste. Mais attention, cela ne suffit pas. Comme toujours, Dieu, qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Et malheureusement, bien souvent, trop souvent, Dieu se trouve dans notre âme comme dans un désert, seul, abandonné. Dieu présent en nous. Combien de fois y pensons-nous dans la journée ? Venu pour être notre soutien, notre consolateur, notre conseiller, bien plus, notre ami. Vrai tabernacle vivant que nous sommes, nous n'en prenons pas conscience, et cela pas même pendant nos prières. Ah oui, bien trop souvent, lorsque nous prions, nous nous adressons à une entité, mais non à une personne vivante, présente en nous par sa grâce. Quelle souffrance pour le cœur de Jésus! Pensons à la plainte, l'une des seules plaintes qui s'est échappée de ses lèvres sacrées lors de son agonie au jardin des Oliviers. « Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu veiller une heure avec moi ?» Eh bien, trop souvent, nous aussi, nous dormons. Tout lui dire, tout lui offrir, le consulter en tout, lui tenir compagnie. Mais voilà ce que le bon Dieu attend de chacun d'entre nous. Hélas, quelle réponse ? La réponse, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est venu la donner, la commenter lui-même, toujours dans un appel à l'amour. Ah, certes, ses plaintes s'adressent surtout à l'âme lors de son action de grâce. Mais l'action de grâce, ce n'est que le moment le plus intime de notre union avec Dieu. Et cette union devrait se continuer. Donc, il sera facile de transposer ces plaintes du cœur de Jésus. Voici ce qu'il nous dit, lui qui se trouve à quelques mètres de nous, au tabernacle. « Cependant, je suis au tabernacle toute la nuit et j'attends cette âme, notre âme. Je désire avec ardeur qu'elle vienne me recevoir, qu'elle me parle avec une confiance d'épouse, qu'elle m'expose ses peines, ses tentations, ses souffrances, qu'elle me demande conseil et qu'elle sollicite la grâce dont elle a besoin, pour elle ou pour d'autres. Viens, lui dis-je, parle-moi de tout avec une entière confiance. Intéresse-toi au pécheur. Dis-moi qu'aujourd'hui tu ne me laisseras pas seul. Voilà ce que j'espérais de cette âme, comme de beaucoup, beaucoup d'autres. Mais quand elle me reçoit, à peine me dit-elle une parole. Elle est distraite, lasse, contrariée. Ses affaires l'absorbent, sa famille l'inquiète, son entourage lui pèse, sa santé la préoccupe. Elle ne sait que me dire, elle est froide, elle s'ennuie. Il lui tarde de partir. Est-ce ainsi que tu me reçois, âme que j'ai choisie et que j'ai attendue avec désir toute la nuit ? Oui, je t'attendais pour me reposer en toi et alléger mes inquiétudes. Je t'avais préparé de nouvelles grâces. Tu ne les désires même pas. Tu ne me demandes rien, ni conseil, ni force. Tu te plains simplement et sans même t'adresser à moi. Alors, chers fidèles, eh bien, inutile de se répandre en regrets stériles et superflus. Travaillons maintenant. Travaillons à cultiver cette vie d'union à Dieu. Mais comment cela ? Pratiquement parlant, comment est-ce que nous allons, au quotidien, développer cette vie d'intimité avec notre doux Sauveur ? Écoutons le Père Périnel, dominicain, qui va nous donner 4 conseils pour y arriver. Premièrement, ne vous dissipez pas. Deuxièmement, ne vous affairez pas. Troisièmement, essayez d'avoir en toute chose l'intention de plaire à Dieu. Quatrièmement, élevez souvent votre âme vers lui. Ne vous dissipez pas, ne vous affairez pas, essayez d'avoir en toute chose l'intention de plaire à Dieu, élevez souvent votre âme vers lui. Parmi les 4 conseils donnés pour cultiver cette vie en présence de Dieu, il en est un sur lequel nous devons nous arrêter davantage, parce qu'il résume en quelque sorte tous les autres. Et prendre à cœur de cultiver ce conseil, de le développer en nous, eh bien, nous amènera infailliblement à l'union à Dieu. Voici quel est ce conseil. Essayez d'avoir en toute chose l'intention de plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle la pureté d'intention. Et si vous vous en souvenez, c'est le deuxième moyen que notre Seigneur a bien voulu nous donner pour arriver à la sainteté. La pureté d'intention, eh bien, c'est tout faire par amour pour Dieu. Tout, absolument tout, jusque dans les plus petites choses. Mais comment ? Eh bien, l'amour a son siège dans la volonté. L'amour, ce n'est pas du sentimentalisme, ni affaire d'émotion. Or, notre Seigneur, toujours pratique, va venir nous prévenir dans un appel à l'amour. Ce n'est pas l'action qui en soi a quelque valeur, c'est l'intention dans laquelle elle est faite. Cela nous rappelle cet épisode de l'Évangile. Notre Seigneur est là, avec ses apôtres, devant le temple. Et devant lui, il y a un tronc pour recevoir les aumônes afin d'embellir le temple, d'achever sa reconstruction. Alors certaines personnes arrivent, assez riches, qui vont jeter beaucoup d'argent dans le tronc, mais avec ostentation, en montrant bien toute leur générosité, en faisant bien sonner les pièces, histoire de bien en être vu de tous les passants. Par contre, arrive une petite veuve qui va donner une obole, tout ce qu'elle a pour toute la journée, deux petites pièces. Mais elle le fait uniquement pour la gloire de Dieu, par amour pour le bon Dieu. Et notre Seigneur va instruire ses apôtres en leur disant que cette veuve a bien plus mérité que les riches qui ont déjà eu leur récompense en faisant par ostentation. Donc ce n'est pas l'action qui en soi a quelque valeur, mais c'est bien plus l'intention dans laquelle elle est faite. Il va donc nous falloir diriger notre intention vers Dieu seul. Comment cela ? Comment, pratiquement parlant, y arriver ? Eh bien, commençons déjà le matin, à la prière du matin. Pensons à bien offrir toute la journée. Et si nous savons qu'il y aura telle ou telle croix, telle ou telle chose pénible, mais aussi telle ou telle chose agréable ou qui sort de l'ordinaire, eh bien, nous pouvons les offrir à l'avance. Et puis, avant chaque occupation, du moins avant chaque occupation importante, offrons-la à Jésus. Union constante ne veut pas dire penser constamment à Jésus. Ce n'est guère possible avec notre pauvre nature humaine. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que lorsqu'un peintre peint un tableau pour son maître, pour celui qui l'a commandé, eh bien, il ne s'efforce pas à chaque coup de pinceau de dire « c'est pour un tel que je le fais, c'est pour un tel que je le fais, c'est pour un tel que je le fais ». Il lui suffit, au début de son travail, de l'offrir, de dire « bah oui, c'est pour un tel que je vais peindre ce tableau », et ensuite de s'appliquer. De l'offrande initiale, tout son travail tire la valeur. C'est pareil surnaturellement. Lorsque nous commençons un travail, offrons-le à Dieu. Ce travail, les efforts que nous allons faire, notre application, et alors, oui, notre travail aura une grande efficacité surnaturelle. Mais tout offrir, me direz-vous, c'est bien difficile, c'est bien compliqué. Mais non, ce n'est qu'une question d'habitude. Une habitude à prendre petit à petit, en se fixant d'abord des petits objectifs. Prendre au matin, eh bien, cette résolution de penser à Jésus à chaque fois qu'on montera dans sa voiture, par exemple, et de lui offrir ce que l'on va faire après, en rentrant, en descendant de la voiture, ou bien en rentrant dans telle pièce de la maison. Et une fois que cela sera acquis, eh bien, nous passerons à autre chose. Et ainsi, petit à petit, nous prendrons cette habitude de tout offrir à Dieu et de se tourner vers lui, c'est-à-dire Dieu présent en nous, eh bien, à chaque occupation importante. Et puis, voyez-vous, on n'a rien sans rien. Et qui veut la fin, veut les moyens. Si nous nous étions découragés avant chaque effort sérieux, eh bien, nous ne saurions ni marcher, ni parler, ni lire, ni écrire. Nous ne serons rien. Ce que nous avons pu le faire pour quelque chose de purement naturel, eh bien, cela vaut la peine de le faire pour notre vie surnaturelle, pour notre éternité. Alors prenons dès aujourd'hui ce réflexe de tout offrir au bon Dieu. Et ne nous posons plus jamais la question, est-ce que ceci est un péché ? Mais posons-nous bien la question, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à Jésus ? Comment lui faire plaisir ? Car dès qu'on commence à se rechercher, à l'instant, on cesse d'aimer. À sa sœur qui était venue le voir et lui posait cette grande question, comment devenir une sainte ? Saint Thomas d'Aquin répondit, « Oh, c'est bien simple, il faut trois choses. Pour devenir une sainte, il faut trois choses. Premièrement, il faut le vouloir. Deuxièmement, il faut le vouloir encore. Troisièmement, il faut le vouloir toujours. Pour devenir un saint, il faut avoir la ferme volonté de devenir un saint. Une volonté efficace, pas simplement une velléité. Mais le voulons-nous vraiment ? Est-ce que nous le voulons par-dessus tout ? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier tout ce qui ferait obstacle ? Dans la mesure où nous saurons nous sacrifier, alors nous saurons quelle est la mesure de notre amour, quelle est la force de notre volonté. Les moyens, eh bien nous les connaissons maintenant. Notre Seigneur va nous les résumer lui-même une dernière fois, toujours dans un appel à l'amour. Non, aimer mon cœur n'est ni difficile ni dur, mais suave et facile. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire pour atteindre un haut degré d'amour. Pureté d'intention dans l'action, petite ou grande. Union intime à mon cœur, et l'amour fera le reste. Alors demandons surtout au Sacré-Cœur, présent dans la Sainte Eucharistie, demandons au Sacré-Cœur, par sa mère, la très Sainte Vierge Marie, lorsque nous recevrons son divin Fils dans la Sainte Communion, de bien vouloir rectifier et fortifier notre volonté. Et alors, l'amour fera le reste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.